Chapitre 34. Long avait tout deviné en une seconde. Il ne perdit pas son temps à écouter les excuses qu'on prodiguait. « Habillez-vous, » dit-il à la personne couchée dans le lit de Nora. « Je vous arrête comme complice. Que l'on envoie une garde pour rester ici jusqu'au moment où elle sera prête. » Et il descendit avec la garde de nuit, qui lui expliquait que la personne amenée dans l'après-midi, sur la recommandation d'un docteur, ne cessant de crier et de se plaindre, avait été transportée ailleurs d'après un ordre formel. On avait fait venir une ambulance automobile et elle avait été transportée sur un brancard, sous les yeux du médecin qui l'avait fait entrer. « J'ai assisté au départ, » dit la garde, « et je me suis éloigné que quelques minutes pour aller chercher une couverture. »« Eh bien, c'est pendant ce temps-là qu'on a réussi la substitution. »« J'aurais dû prévoir la chose. On m'avait parlé de cette malade dans l'après-midi. » Naturellement, il avisa Scotland Yard. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il donna des ordres pour que de tous côtés, l'on rechercha l'ambulance automobile. Il avait complètement oublié l'aventure de son père lorsqu'à 3 heures du matin, il reçut un coup de téléphone de Berkeley Square. C'était le vieux domestique qui l'informait que Sir Godley n'était toujours pas rentré. Long sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Il avait besoin désormais de tout son courage et de tout son sang-froid. Il fit un effort considérable pour essayer de réfléchir avec calme. Il devait oublier son affection filiale pour Sir Godley et sa sympathie pour Nora afin de raisonner clairement et prudemment. Sir Godley et Nora n'étaient d'ailleurs pas les seules personnes disparues au cours de cette nuit-là. Mademoiselle Revelstock, qui était sortie la veille au soir pour se rendre à une soirée, n'était pas rentrée non plus à 3 heures du matin. Henry, son avocat, était également absent. Un seul personnage se trouvait à son poste, c'était M. Cravel. Long put s'en assurer, car il lui téléphona au petit jour. « Bonjour, » dit Cravel. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Mais je vous appelle depuis minuit, » dit le policier. « Où étiez-vous ? » ?»« Vous m'avez appelé cette nuit ? » ?»« Mais ça, c'est impossible, monsieur. Je me suis endormi vers 11 heures. Le téléphone est à côté de mon lit. Je l'aurais certainement entendu. Que voulez-vous de moi ?» Bon, la voix n'était pas celle d'un homme que l'on vient de tirer du sommeil. Elle était claire, tranquille et prudente. « Je tiens à vous voir, » dit Long. « Votre sœur est-elle là ?»« Non, ma sœur est en ville. Vous connaissez son appartement. » Et il donna le numéro de téléphone. « J'arriverai dans 1 heure. » Il appela aussi Mademoiselle Cravel, mais ne put obtenir d'elle aucune information nouvelle. Il la fit chercher par un officier de police, et ce dernier arriva quelques minutes après son départ. L'aube se montrait, et une pluie fine tombait monotonement, lorsque la voiture que conduisait Long s'engagea sur la grande route de l'Ouest. Il se préparait à monter la côte de Hirson, lorsqu'il aperçut une silhouette sur le côté de la route. C'était une femme qui lui faisait signe de s'arrêter. Il bloqua ses freins et reconnut Miss Cravel, debout près d'une petite voiture tombée dans le fossé. « Ah, je pensais bien que c'était vous, » dit-elle. « Où allez-vous ? » ?»« À Hirtshals, voir votre frère. » « Je m'en doutais. Oh, je vous supplie de ne pas y aller. J'ai essayé d'arriver avant vous. » Mais mes freins ont sauté en dessous de la côte, et vous voyez le résultat. Non, permettez-moi. Elle faisait pitié. Elle était trempée jusqu'aux os, et sa silhouette était navrante sous la pluie qui continuait à tomber. Mais que craignez-vous donc, diable ? Demanda Long. Vous savez fort bien qu'on a dû emmener Nora là-bas. Mais je le savais, je vous avais prévenu. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Allez, maintenant, ne compliquez pas la situation. Hershey's, c'est la mort pour vous. Vraiment, oh, je ne pensais pas que je songerais un jour à sauver votre vie. Vous voyez pourtant que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, ma vie n'importe pas. Où a-t-on transporté Miss Nora? Je l'ignore. À Hershey's, peut-être, mais où, je ne sais. Il vit que la voiture était hors d'usage dans le fossé et il invita la jeune fille à monter dans la sienne. Mais elle secoua la tête. « Oh, ne m'emmenez qu'à moitié chemin. À Seaton, je pourrais louer une voiture. »« Vous ne venez plus à Hershey's ?»« Non. » Rouche, qui était du voyage, passa à l'arrière et Miss Cravel prit sa place. Long pouvait la sentir trembler près de lui. Il prit une couverture et la mit sur ses épaules. « Savez-vous que mon père aussi a disparu cette nuit ?»«
Sir Godley ? » dit-elle. « Votre père ? Mais où peut-il bien être ?»
Évidemment, elle ne pensait pas que la disparition de Sir Godley eût quelque rapport avec les agissements des terribles.
« Je suis faible, très faible, dit-elle. C'est la mort de Jackie. Je ne pense qu'à lui, pauvre Jackie. »
Les larmes coulaient sur son pâle visage. À Seaton, Arnolf arrêta sa voiture devant un garage et la déposa. « Et maintenant, où allez-vous ? »
« Je retourne à Londres. J'ai fait ce que j'ai pu. »
Elle lui tendit la main.
« Au revoir, Monsieur Long. Oh, je ne devrais pas souhaiter vous voir, sauf... Et pourtant, je vous dis bonne chance. Si jamais dans un autre monde vous pensez à moi, vous saurez que j'étais sincère. »
Elle se retourna en sanglotant plus fort et elle disparut à l'intérieur du garage. Il continua son voyage. Un sentiment étrange lui étreignit le cœur. Quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La jeune femme avait paru si persuadée que la mort l'attendait à Hershey's qu'il se sentait peu à peu gagné à cette certitude. Chapitre 35. 10 minutes plus tard, la voiture s'arrêtait devant l'entrée de l'hôtel. Cravel attendait sous le porche. « Pourriez-vous par hasard rencontrer ma sœur ? » demanda-t-il. « Non. » Cravel éclata de rire. « Il y a 5 minutes, elle vient me téléphoner que vous l'aviez déposée au garage de Seaton. » « Ah, dans ce cas, répondit tranquillement Long, c'est que je l'ai rencontrée. » Un café bien chaud était préparé dans la salle à manger. « Oh, j'ai pensé que cela ne vous ferait pas de mal en arrivant, » dit Cravel. « Je puis vous assurer que ceci n'est pas emprisonné. » Le café était le bienvenu et Long le but volontiers. « Je vois que vous avez amené le sergent Rouche avec vous, » dit encore Cravel. « J'en suis content. Que voulez-vous ? Quand on est soupçonné de toutes sortes de crimes affreux, on aime assez avoir un témoin, même quand ce témoin ne vous est guère acquis d'avance. Je vous ai fait allumer du feu au numéro 7. C'est l'ancien appartement de ce pauvre Monkford. Mais je sais que vous n'êtes pas impressionnable. Mais pourquoi avez-vous choisi cette chambre ? Une fois de plus, le directeur leva les épaules. « À vrai dire, fit-il, je n'imagine pas que vous soyez venu ici à 5 heures du matin pour obtenir une chambre en vue de la saison prochaine. Ce matin, j'ai eu une entrevue assez déplaisante. J'ai le souci de mon autorité et je tiens à ce que notre conversation reste privée. » L'ascenseur ne fonctionnant pas, ils gravirent les 2 étages.
Cravel s'effaça pour laisser le détective entrer le premier dans l'appartement qui lui était familier. Un feu de bois brûlait dans la cheminée. Long retira son par-dessus et regarda Rouche pensivement. « Dites-moi, Rouche, oh, je pense que vous serez mieux en bas, » dit-il enfin. Le sergent obéit sans la moindre observation et redescendit. « Je suis assez à court de domestiques, » fit Gravel. « Pendant l'hiver, je n'en garde que quelques-uns, mais si vous avez besoin de la moindre chose, je suis entièrement à votre service. » Le directeur avait mis à exécution son projet de transformer une partie de l'appartement. Un nouvel escalier avait été construit. La dernière fois que Long était venu à Ernst's, il avait remarqué la présence de nombreux ouvriers. La pièce même où il se trouvait avait été entreprise, il y régnait un certain désordre. « Maintenant, dit Long, à nous deux, Cravel, je désire que vous me donniez certaines explications, et j'aime bien vous prévenir que vous n'en avez plus pour longtemps à jouer au plus fin avec moi. Où est mademoiselle Sanders ?
Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je le sache ? Je suis resté ici la plus grande partie de la semaine sans bouger. Les dernières nouvelles que j'ai eues venaient de mademoiselle Revelstock, qui m'a appris l'enlèvement de sa secrétaire par des personnes inconnues et ensuite son sauvetage héroïque par le roi des détectives, Arnold Long. On l'a enlevé à nouveau hier soir de la maison de santé où j'avais fait transporter. Et c'est, si je ne m'abuse, votre ami le professeur qui a fait le coup.
Mon ami le professeur, mais diable, qui est mon ami le professeur ?
Ils se regardèrent fixement. Cravel discerna dans les yeux de Long une lueur qu'il reconnut pour l'avoir déjà observée une fois. Pourtant, il ne trembla pas. Il continua même à sourire.
« Oh, je crains que vous ne soyez pas suffisamment calme pour ce qui vous reste à dire, mon cher monsieur, » fit-il enfin. « D'autant plus que ce que j'ai à vous apprendre vous donnera un choc terrible. »«
Vraiment ?» dit Long. « Et de quelle nature sera ce choc ?» Gravel se dirigea vers la cheminée et s'y appuya les mains derrière le dos.
Oh, quelque chose de bien fâcheux est arrivé, bien fâcheux. Vous allez voir, pauvre demoiselle Sanders. J'ai d'elle plusieurs lettres car elle m'a honoré de sa confiance. Il semble qu'elle ait été quelque peu inquiétée par les intentions trop marquées que vous aviez sur elle.
Long haussa les épaules. Cravel, évidemment, parlait pour gagner du temps. Il devait avoir un but.
Naturellement, mon cher Long, vous ne pouvez vous imaginer que vos intentions aient pu ennuyer une femme.
Je comprends cela, c'est si naturel.
« Oh, éternelle vanité masculine !»«
Vraiment, Cravel, vous me rappelez de plus en plus Clay Shelton, » interrompit Long. « Ce genre de propos creux et de phraséologie était une de ses spécialités. »
Le visage de Cravel devint rouge et ses yeux brillèrent. Il respira plus fortement.
« La philosophie de Clay Shelton m'importe peu, » dit-il. « Je voulais simplement dire que vous ne pourriez imaginer qu'on soit heureux d'être distingué par vous. Mademoiselle Sanders hésitait à vous vexer, mais vous insistiez tellement que l'on conçut de la crainte, et c'est pourquoi elle a demandé à un de mes amis de l'aider à vous échapper. Oh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... l'enlèvement a eu lieu hier soir. Malheureusement, il s'arrêtait, hésitant, et Long ne le quittait pas des yeux.
Malheureusement, le choc reçu par Nora il y a quelques jours était trop fort pour le cœur de cette pauvre jeune fille. Et sur la route qui la conduisait ici, elle est ici? Oui, mais je vous disais justement que sur la route, elle s'était évanouie. Oh, on a tout fait, bien entendu, pour la ranimer. En vain. Elle est morte. Morte? Les yeux d'Arnold se fermèrent à moitié. Vous n'êtes qu'un menteur, Cravel. Vous êtes en train d'essayer de me tromper. Mais pour Dieu, tentez autre chose. Car s'il est vrai qu'elle soit morte, si c'est là la vérité, je vous jure que rien au monde ne peut plus vous sauver. Cravel haussa simplement les épaules. Ben, c'est évidemment lamentable, navrant, mais je croyais que vous vous en doutiez déjà. Ma sœur n'a généralement pas tant de discrétion. Comment, elle le savait? Demanda Long doucement. Oui, mais où est Nora Sanders? Au grand étonnement de Long, Cravel lui indiqua la porte de l'appartement dans lequel Montcorde avait trouvé la mort. Marchez, ordonna brièvement le détective en dirigeant son revolver sur Cravel. Nous allons bien voir jusqu'à quel point vous allez pousser cette plaisanterie. Sans hésitation, avec calme mais lentement, le directeur marcha vers la porte qu'il avait indiquée, en tourna le bouton et l'ouvrit toute grande. Entrez, dit Long, qui le suivait. Les rideaux des fenêtres étaient à demi tirés. Une lueur diffuse pénétrait dans l'appartement et créait une atmosphère assez fantastique. Arnold fit halte, paralysé par l'étonnement. De la porte juste en face de lui, sur le lit, il apercevait un visage d'une pâleur de craie dont les yeux étaient fermés. C'était Nora Sanders. Il la regardait fixement. Sa bouche restait ouverte, sa pensée arrêtée. Ainsi c'était vrai, elle était morte. Un mouvement se produisit au pied du lit et Long remarqua dans l'alcôve une forme bizarre et pourtant familière. Un vieil homme dont les cheveux blancs en désordre tombaient sur les joues et la lumière dansait sur les larges verres de ses lunettes. Il regardait le policier avec une grimace de haine. Que nul ne bouge, dit Long. Un seul mouvement et je tire. Ses yeux revinrent au corps immobile étendu sur le lit. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Un immense chagrin le glaçait qui fit place brutalement à une colère effroyable. Misérable, hurla-t-il. Il fit un pas vers le lit, puis un second qui l'amena au centre du tapis. Il eut l'impression que le plancher se dérobait sous lui. Il essaya de se rejeter en arrière, mais il était trop tard. Il perdit l'équilibre, essaya d'agripper quelque chose pour se rattraper et disparut dans un trou soudainement découvert. Ça heurta une poutre si violemment. Il perdit conscience. Chapitre 36. Quelques instants plus tard, Cravel descendait tranquillement l'escalier. Il s'approcha de Rouge qui regardait tristement tomber la pluie. L'inspecteur Long restera à déjeuner, dit-il. Est-ce qu'il a besoin de moi là-haut? Demanda Rouge. Non, pas pour l'instant. Il m'a demandé certains papiers que je vais lui chercher. Bien, dit Rouge, continuant à regarder par la fenêtre. Il entendit Cravel ouvrir la porte de son bureau, puis revenir, mais ne se retourna pas et cela lui fut fatal. Cravel lui asséna un coup sur la tête qui
qui l'aurait tué sur le champ s'il avait eu un chapeau assez épais. Cela suffit cependant pour l'étourdir. Il tomba sur les genoux pendant que Cravol continuait à frapper sauvagement. Quand il eut perdu connaissance, son agresseur le prit sous le bras, le tira non sans difficulté hors de la pièce et le transporta dans l'automobile qui se trouvait devant la porte. Là, il recouvrit le corps d'une couverture, puis il alla chercher une légère bicyclette qu'il mit aussitôt dans la voiture et, s'asseyant au volant, il partit. Après un quart d'heure, il quitta la grand-route brusquement et prit un chemin qui le conduisit près de la rivière en un endroit où la berge surplombe l'eau d'assez haut. Il s'arrêta, laissa le moteur en marche, puis il détacha la bicyclette, lâcha les freins de l'auto et, restant lui-même sur la route, il regarda la voiture rouler, glisser sur la pente avec un bruit épouvantable et tomber dans le courant, d'où elle se retourna avant de s'immobiliser définitivement. Alors, rassuré, Cravel enfourcha sa machine et revint à Hertz's. Aussitôt arrivé, il monta à la chambre où reposait Nora. Elle n'était plus là. Oh, le professeur avait dû la transporter ailleurs. Cravel ramassa le revolver que Long avait laissé tomber, puis il roula le tapis et le déposa dans le salon voisin. On avait déjà pris le soin d'enlever les rideaux et les couvertures du lit. Le directeur se rendit alors dans son bureau où s'ouvrait un petit escalier qui le conduisit au sous-sol. Une lampe à la main, une massue de l'autre, il suivit un long couloir et arriva à l'endroit qui se trouvait exactement sous l'excavation dans laquelle était tombé le policier. Il regarda de tous côtés, de plus en plus anxieux de ne découvrir aucune trace de Long, là où il pensait le trouver mort ou mourant. On ne distinguait même aucune éclaboussure de sang. Il jura entre ses dents, ne comprenant pas comment le détective avait pu échapper à une chute aussi grave et aussi bien préparée. Il chercha à nouveau, devant accepter le fait, et tout à coup, l'idée que Long pût être encore vivant lui donna un violent coup au cœur. Lui qui connaissait peu la peur était devenu verdâtre. Il remonta dans son bureau et fut obligé d'absorber un grand verre d'alcool pour se remettre. Soudain, il sursauta. On frappait à sa porte. Ce n'était que la cuisinière qui venait lui demander les clés de l'office. Il s'essuya le front et gagna le second étage. Là, au bout d'un étroit passage, il ouvrit une porte dissimulée dans le mur et qui donnait accès à un petit appartement privé. Deux pièces, une petite salle de bain et une cuisine. Nora était couchée dans l'une de ses chambres, sur un divan, si pâle et si immobile qu'elle semblait l'image même de la mort. Un œil attentif eut cependant perçu de faibles mouvements respiratoires. Il regarda le bras nu et examina les marques de trois piqûres qui étaient récentes. Tout près, sur une tablette, se trouvait une bouteille pleine d'un liquide vert et une seringue hypodermique. Soulevant une des paupières, il toucha la pupille du bout du doigt. Aucune réaction ne se produisit ni au toucher ni à la lumière. Il eut un petit grognement de satisfaction, puis il pénétra dans l'autre pièce. Dans celle-ci, une note au crayon l'attendait sur une table. Il la lut, la déchira et la jeta dans la cheminée. Le même problème le harcelait toujours, mais où était Long ? Il tira de sa poche le revolver du policier et l'examina. Son anxiété allait croissant.
Il s'assit au bord de la table et réfléchit. En admettant que le policier eût été tué, qui avait pu faire disparaître son corps? D'autre part, il fallait prévoir que la voiture tombée dans la rivière serait retrouvée, ainsi que le cadavre du sergent Rouche. Des recherches seraient entreprises. Que faire? Il s'irritait aussi de l'absence de sa sœur Alice. Il ne comprenait pas. Il l'avait toujours connue si insensible, si hardie dans toutes leurs entreprises, qu'il ne pouvait s'expliquer sa nouvelle attitude. À ce moment, il entendit une voix qui l'appelait dans le hall. Il ouvrit la porte, courut à la balustrade et reconnut sa sœur. Elle était là, le visage ruisselant de pluie, les vêtements fripés autour d'elle comme des loques. « Descendez !» dit-elle. Il obéit. « Où est l'ongle ?»« Je l'ignore, je ne l'ai pas retrouvé. » Elle ne semblait pas croire à son affirmation. Cependant, elle changea de sujet. « Je viens de rencontrer un taxi sur la route. » Il s'étonna. « Quel intérêt peut avoir un taxi ou son conducteur ?»« Mais un intérêt énorme !»« Il ne se trouve pas très loin de la grille d'entrée là-bas, sous les ormes. »« J'ai interrogé le chauffeur. Il a conduit quelqu'un ici et il l'attend depuis minuit. »«
Quelqu'un, mais qui ?»
Ah, voilà, j'ai seulement pu savoir qu'il s'agit d'un homme d'un certain âge, aux cheveux gris, qu'il a pris au coin de Berkeley Square.
« Bizarre, dit-il, j'ai pourtant vu personne. »«
Mais elle est ici. Vous me semblez jouer avec le feu et avec un feu pas ordinaire. Je vous assure, frérot, que vous allez un peu fort. » Si je calcule bien, il ne vous reste guère qu'une chance. Ne la laissez pas échapper.
Un sourire amer éclaira le visage de Cravel. Bon, je la saisirai, cette chance. Ne craignez rien. Mais pas avant que tout ce que nous désirons ne soit entre nos mains. Je suis pas un imbécile. Ça peut être allé trop loin, mais maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Continuez.
Alice eut un geste là, comme indifférent. Il semblait qu'elle s'en remit dès lors à la fatalité. Je monte me changer.
Elle usait du même appartement que son frère au premier étage, mais sa porte n'offrait aucun mystère. Il l'attendit et bientôt il la vit reparaître, mais il fut surpris de l'avoir vêtue pour sortir.
« Et où allez-vous encore ?»« Ma voiture va être réparée et le garage a téléphoné. Je vous attendrai toute la matinée. »
Il sourit. « N'attendez-vous personne d'autre que moi ?»
Elle répondit à voix basse. « Personne, non. Mais, à coup sûr, de terribles ennuis. »
Il secoua la tête.
Vous êtes bien impressionnable, ma petite sœur. C'est la mort de Jackie, je suppose. Mais pourquoi refusez-vous de croire que c'était un accident? Jackie s'est tué, le pauvre diable. Je suis prêt à le jurer. Il était déjà mort quand on l'a sorti de l'eau, et sa pendaison ne fut qu'une formalité. Vous savez bien que le professeur le haïssait depuis l'arrestation de Clay Shelton. « Vous ne cessez pas de mentir, dit-elle. Jackie n'avait sur lui qu'un vieux revolver militaire, et la balle qui l'a tué sortait de Browning. Mais à quoi bon discuter maintenant ?»
Cependant, avant de quitter son frère, elle lui dit encore,
« À votre place, je fouillerai les jardins autour de la maison. Ou plutôt non, je filerai, tout simplement. »
« Merci du conseil !» Il la suivit des yeux. Il restait hésitant. Enfin, il se décida à explorer les alentours de l'hôtel. Il ne découvrit d'ailleurs rien de particulier, si ce n'est deux ou trois passes de pas sur l'une des pelouses près de la grille. Mais cette découverte minime suffit à le faire pâlir. Il commençait à croire que les craintes de sa sœur puissent être fondées. Tout à coup, il se dirigea vers la sortie, cherchant le taxi et son conducteur. Il découvrit l'homme assis sur son siège et fumant sa pipe avec patience. Ce chauffeur se retourna en entendant des pas. « J'espérais que vous seriez mon passager, » dit-il. « Oh, j'ai hâte qu'il revienne, car je ne fais que la nuit, moi. Mon camarade de jour attend la voiture. »« Oh, diable, c'est que votre client en a encore pour quelque temps. Vous feriez mieux de rentrer et vous garer dans la cour. » « Vous croyez, mais moi on m'a dit d'attendre ici, alors j'attends ici. »« Et comment est-il votre client ?» L'homme se lança dans une description qui n'apporta à Clavel aucune lumière. « En tout cas, je suppose pas qu'il va me faire faux bon. Ce serait vraiment une sale blague. Moi, j'ai fait de mon mieux et j'ai gazé tant que j'ai pu pour suivre une Fiat qui était deux fois plus forte que moi. » Quel métier! Comment une Fiat? Gravel savait pertinemment que c'était une Fiat qui avait amené le professeur et Nora. Il interrogea haletant. Mais à quelle heure vous a-t-on pris? L'heure qu'indiqua l'homme était bien celle à laquelle la Fiat faisait route vers Hertzis. Gravel serra les poings. Ainsi le professeur avait été suivi. Le danger était imminent. Il revint tout désemparé vers la maison. Tout en marchant, tête basse, il aperçut dans l'herbe un objet brillant. C'était une paire de pince-nez qui avait dû être également égarée récemment. La monture n'était pas rouillée. Gravel examina longuement cet accessoire d'optique. Son imagination ajoutait des yeux derrière les verres, puis un visage menaçant. Il rentra dans l'hôtel par les sous-sols, espérant trouver des marques de pas semblables à celles qu'il avait vues sur la pelouse, mais il n'y avait rien. Il monta alors jusqu'à son appartement, et là il fit halte brusquement. Sur le tapis rouge, des traces boueuses, des marques fraîches et distinctes frappaient son regard. Elle n'était point là, tout à l'heure. Chapitre 37. Il regarda autour de lui. Pas un mouvement, pas un souffle, rien qui décelât l'existence d'un être hors ses pas encore humides. Il fut en proie à la panique. Il se précipita à travers les pièces. Il songeait à la jeune fille, toujours endormie. Nora reposait encore là, les yeux fermés, immobiles, mais il semblait que la couleur revint peu à peu à son visage. Il respira et essuya la sueur qui coulait de son front. Soudain, il distingua un plateau avec du thé, et il eut un ricanement. Quelle alerte stupide! Les pas mystérieux n'étaient autres que ceux de la vieille cuisinière. Il s'assit, vaincu en quelque sorte par une émotion rétrospective. Il tournait le dos au divan qu'occupait Nora. Un bruit léger, tout près de lui, le fit sursauter, et aussi vif que l'éclair, il se retourna. « Ne bougez pas ou je tire !» Les yeux exorbités, il fixait un danger nouveau auquel il ne s'attendait nullement. Nora Sanders était debout, dirigeant vers lui le canon d'un Browning. Son visage était d'une pâleur mortelle. Elle était vêtue de sa seule chemise de nuit, mais la main qui tenait l'arme était parfaitement ferme. Le revolver était celui de Long. celui-là même qu'il avait laissé sur la table derrière lui. « Ne bougez pas !» répétait-elle. Elle marchait vers la porte du corridor à reculons. Elle ouvrit cette porte. Gravel entendit la voix d'un garçon dans le vestibule en bas. Si Nora réussissait à atteindre l'escalier, elle était sauvée. Il fallait gagner du temps. Sa voix se fit persuasive. « Mais vous ne savez pas ce que vous faites, Miss Sanders. Vous avez été très malade. »« Oh, je sais très bien ce que je fais. » Il y avait dans ses inflexions un mélange d'énergie et de faiblesse, et lui semblait à elle-même que c'était une autre personne qui parlait, tant ses mots résonnèrent étrangement. Mais vous allez prendre froid, et vous vous tuerez si vous ne faites pas attention. Allez, prenez au moins ce manteau. » Il avait saisi un vêtement qui se trouvait près de lui et lui tendait. Elle recula davantage, le revolver toujours levé vers lui. « Eh bien alors, montez dans votre ancienne chambre. Tenez, voici la clé. Je vous jure que je ne vous toucherai pas. » Il avait jeté une clé au pied de la jeune fille. Elle hésita pour la ramasser, il en profita pour jeter le manteau sur la main qui tenait l'arme. Une seconde après, il étranglait les cris de Nora dans sa gorge. Elle était encore bien faible, à peine évadée de l'influence de la drogue qu'on lui avait administrée. La lutte ne pouvait pas être longue. Il la traîna jusqu'à lui brutalement, la recoucha et lui dit « Si vous criez, je vous tue !» Les yeux de Nora disaient son désespoir. Il la maintenait d'une main. De l'autre, il prit la seringue hypodermique, encore pleine du liquide vert, et dans la chair du bras, il planta l'aiguille. Elle eut deux ou trois soubresauts, puis retomba immobile, et ses yeux se fermèrent. Le visage de Cravel était couleur de cendre. Il sentait l'urgence de se hâter. La piqûre assurait un sommeil d'une heure ou deux dont il fallait profiter. Il descendit à son bureau et décrocha le téléphone demandant un numéro. Une voix familière lui répondit, et pendant 5 minutes, il conversa en danois. « Il faut absolument que vous veniez la chercher. Arrangez-vous comme vous voudrez, mais il le faut à tout prix. Quant à lui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne le retrouve pas. Envoyez-moi Billy aussitôt que vous le pourrez. Si nous passons la journée, et nous sommes sauvés. » Il retourna dans son appartement. La chambre où dormait la jeune fille était fermée, telle qu'il l'avait laissée. Il s'assit, songeant encore à la disparition de Long. De deux choses l'une, ou le policier avait été tué sur le coup, ou il avait été gravement blessé. Il essaya de se souvenir exactement de sa conversation avec Arnold. Certaines phrases lui revenaient en mémoire. Moi, il avait été question de Sir Godley. Mais qu'importait? Certes, le professeur désirait la mort de Sir Godley. Il en avait même discuté la possibilité. Mais pas une seconde, Cravel ne songea à associer les traces de pas à la personne du banquier. Il ne pouvait rester là, il fallait descendre, faire face à ses devoirs d'hôtelier. Une dernière fois, il se dirigea vers la chambre de la dormeuse. Elle reposait tranquille. Il fit une autre piqûre par précaution, ferma la porte et s'éloigna. À peine était-il dans l'entrée qu'il vit une grosse voiture s'arrêter devant le porche. Trois hommes en sortirent et l'un d'eux se présenta. « Inspecteur Glave de la police, une plainte nous est parvenue ce matin Mais nous venons effectuer une perquisition dans cet hôtel. » Il montrait des papiers. Cravel semblait pétrifié par cette nouvelle offensive. Il ne comprenait pas. « Perquisitionner une plate, mais pourquoi ?»« Oh, j'ai des ordres, je les exécute. » « Que faire ? On allait découvrir la porte de son appartement privé. On allait trouver la jeune fille. Tout était perdu une fois de plus s'il ne gagnait pas du temps. » Il conduisit les policiers de pièce en pièce. Au premier, ils visitèrent l'appartement que Mademoiselle Rivelstock avait occupé. La chambre qui se trouvait à côté était fermée. « N'avez-vous pas la clé de cette chambre ?»« Aussi, dans mon bureau. »« Alors, allez la chercher. » Cravel descendit, accompagné de l'un des policiers. Mais il lui fut impossible de trouver cette clé dans aucun de ses tiroirs. Il dut aller au service de la réception où, enfin, la clé numéro 3 lui fut remise. Ses pensées s'égaraient. Il se trouvait incapable de raisonner. Il se sentait pris dans un traquenard sans issue possible. Mais qui diable avait alerté la police? Cependant, l'inspecteur ouvrait la porte du 3. Il y avait là un amas de matériaux de construction. Dans le milieu de la pièce, un grand trou carré avait été ménagé. L'inspecteur, pénétrant dans la pièce, et en ressortit quelques instants après en fermant la porte. « Mais que signifie tout cela ? » demanda-t-il. « Ben, on construit un nouvel ascenseur, » bégaya le directeur. « C'est d'ailleurs pourquoi la porte était fermée, afin qu'aucun accident ne puisse se produire. » L'inspection continuait. Gravel en suivait les progrès, les jambes tremblantes. Il espérait encore qu'on ne remarquerait pas la porte dérobée. Son cœur s'arrêta quand le sergent Cravel fit halte juste devant cette porte. Il retrouva sa voix pour lui dire « Bon, vous ne pouvez pas entrer là. J'ai un ami, il est très malade. » La clé. « Je vous dis que j'ai un ami qui est... »« Ne m'obligez pas à user de violence. Vous n'avez rien à cacher, j'entrerai. » Il passa la clé à l'inspecteur, qui fit jouer la serrure et entra dans la petite salle à manger. Puis il se dirigea vers la chambre à coucher, qu'il ouvrit doucement. Les dents de Cravel se heurtaient l'une contre l'autre. Glave me reparut enfin. « Il n'y a personne, » dit-il. Cravel regardait bouche bée. Il voyait le lit où il avait laissé Nora Sanders. Ce lit était vide.